I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine à l'heure des pros sur Europe 1 entre 9h et 9h30 et sur CNews entre 9h et 10h30. Le pape François est apparu fatigué, pour ne pas dire davantage, hier à Rome, à l'occasion de la messe des Rameaux qui marque l'ouverture de la semaine sainte, en même temps que l'entrée du Christ à Jérusalem. François a 87 ans, il n'a pas prononcé l'homélie qu'il avait écrite, laissant à son assistant, et non pas à un prêtre, le soin de dire ce texte. Le Saint-Siège a expliqué que François préférait un moment de silence et de prière plutôt que porter l'homélie devant les fidèles, même si personne n'est dupe de la fragilité du pape. La santé du pape est une antienne de l'Église de Rome. Elle décline cette année au moment où les chrétiens entrent dans la dernière semaine du carême. La passion, la mort et la résurrection du Christ seront à partir de jeudi le moment le plus important de l'année liturgique pour les catholiques et les protestants du monde entier qui célèbre Pâques ce 31 mars, les orthodoxes attendront le 5 mai pour saluer ce passage de la mort à la vie. Vendredi, comme chaque année, l'église de Rome sera en deuil. Aucune messe n'est célébrée les vendredis et samedis saints. Cette semaine est aussi l'occasion du recueillement, du retrait ou de la méditation. Je ne doute pas que nos débats subissent l'influence divine qui manque parfois le reste de l'année à nos échanges. Il est 9h, Chana Lousteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le gouvernement accélère dans sa lutte contre le trafic de drogue. Trois nouvelles opérations Place Net XXL vont être lancées aujourd'hui en France, notamment dans la métropole lilloise où le ministre de l'Intérieur est attendu ce matin. Une autre à Dijon. Selon Bruno Bartosetti du syndicat Unité SGP Police, c'est bien, mais il faudrait avoir ces moyens-là toute l'année.
Ces opérations Place Net sont intéressantes à partir du moment où il y a des saisies de stupéfiants, à partir du moment où il y a des interpellations, à partir du moment où on peut, entre guillemets, nettoyer certains quartiers parce que c'est difficile d'y pénétrer dedans avec tous les encombrants qu'il peut y avoir. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Ça va aller crescendo. Est-ce qu'on va pouvoir répondre sur la durée? Et c'est ça qui est important. Oui, oui. Tout est une histoire de moyens, en fait, finalement.
Le gouvernement rehausse le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé. Urgence, attentat. Gabriel Attal l'a annoncé hier soir après le conseil de défense organisé à l'Élysée par Emmanuel Macron. Cela fait suite à l'attentat de Moscou revendiqué par l'État islamique au Khorasan en Iran. Selon le Premier ministre, cette organisation terroriste menace la France et a déjà été impliquée dans plusieurs projets d'attentats déjoués récemment. En Europe, la FNSEA et les jeunes agriculteurs à nouveau reçus à Matignon aujourd'hui. Les syndicats vont poursuivre les négociations avec Gabriel Attal. La coordination rurale sera quant à elle reçue vendredi prochain. Selon Lux Messart, vice-président de la FNSEA, l'axe le plus important est celui de la trésorerie. Écoutez.
La priorité des priorités aujourd'hui, c'est de ramener justement de la trésorerie, du revenu dans les fermes. Donc clairement, il y a eu une rencontre entre Bruno Le Maire et les banques. Quelle sera la mise en place de prêts bonifiés? On sait que les taux aujourd'hui sont plutôt à 4-5%, donc des prêts pour aller jusqu'à la récolte, c'est indispensable.
Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal.
Merci beaucoup Chana, Elisabeth Lévy, Vincent Hervouette, Nathan Devers, Georges Fenech et Gauthier Lebret sont avec nous ce matin. Urgence attentat, la France est en urgence et c'est ce qui a changé ce week-end. Voyez le sujet de Maxime Leguet.
À 4 mois des Jeux Olympiques de Paris, le plan Vigipirate se reclasse en niveau urgence attentat. Ce niveau, le plus élevé dans la hiérarchie Vigipirate, peut être mis en place à la suite immédiate d'un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Il permet d'assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens ou encore de diffuser des informations pour protéger les citoyens en situation de crise. Une mobilisation de forces supplémentaires de sécurité avec des points particuliers à sécuriser.
Les bâtiments à usage d'enseignement, les lieux de culte, les rassemblements. Et puis les transports et les bâtiments publics, quoi. Donc on a effectivement un certain nombre de cibles identifiées dont il faut renforcer la sécurité. Et je crois qu'il y a un volet de 7000 policiers et gendarmes supplémentaires qui seraient mobilisés en plus de Vigipirate, puisqu'on est toujours sous le système de Vigipirate.
Un niveau d'urgence mis en place pour une durée limitée, correspondant au temps de gestion de la crise, avec une surveillance élargie.
Il faut avoir des traducteurs, il faut avoir des moyens de surveillance, il faut surveiller les réseaux sociaux qui se font dans des langues qu'on ne maîtrise pas. Et donc il y a quand même le redéploiement d'un dispositif dont on ne sait pas à quel moment il sera en mesure, si vous voulez, de considérer qu'il maîtrise la situation. Donc on sait quand ça commence, on ne sait jamais à quel moment on va effectivement décider de lever l'urgence.
La dernière posture urgence attentat avait été déclenchée après l'attaque terroriste d'Arras le 13 octobre dernier. Elle avait été rétrogradée au niveau 2 le 15 janvier.
Tout le monde pense évidemment aux Jeux Olympiques.
Bien sûr.
Et c'est pour ça qu'hier soir, il y a eu un conseil de défense d'organiser à l'Élysée.
Oui.
Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute Pierre Conesa. On l'a entendu dans le sujet. Il fait un parallèle entre ceux qui sont suspectés de l'attentat et les conséquences sur le sol de France.
On ne sait pas quels sont les gens qui ont fait l'attentat. C'est-à-dire, on dit que c'est effectivement l'État islamique au Khorasan, mais est-ce que ce sont des Tchétchènes? Est-ce que ce sont des gens venus d'Asie centrale? Est-ce que ce sont des musulmans russes, etc.? Si on considère, comme je viens de vous le dire, que maintenant il faut surveiller une population qui n'est plus celle qu'avait l'habitude de surveiller les services de renseignement, c'est-à-dire les populations d'origine maghrébine, moyenne-orientale, etc., et qu'il faut élargir le cercle à des populations venues d'anciennes Union soviétique, d'Asie centrale, de Tchétchénie, etc., vous voyez bien que c'est un dispositif pour lequel on n'a pas obligatoirement les moyens, parce qu'il faut avoir des traducteurs, il faut avoir des moyens de surveillance, il faut surveiller les réseaux sociaux qui se font dans des langues qu'on ne maîtrise pas. Et donc, il y a quand même le redéploiement d'un dispositif dont on ne sait pas à quel moment il sera en mesure, si vous voulez, de considérer qu'il maîtrise la situation.
Vincent Arouet, deux, trois choses que j'ai notées sur lesquelles je voulais vous interroger, parce que vous êtes notre spécialiste pour décrypter, décoder, et c'est vrai que ce qui s'est passé à Moscou peut nous interroger. Bon, ce que j'ai noté, d'abord l'ambassade américaine, il y a 15 jours, avait lancé un avertissement à ses ressortissants, éviter des lieux de rassemblement. Manifestement, Poutine n'a pas écouté ces renseignements de l'étranger. Deuxième chose, comment ?
Ce qui constitue un double défi pour Vladimir Poutine. Un, il n'a pas protégé les moscovites, et deux, donc ses services de sécurité ont été défaillants. Et il incarne particulièrement les services de sécurité. Et deux, il a traité avec mépris, en le prenant même comme une provocation, comme un chantage, la mise en garde qu'il a reçue. Double faute.
Deuxième chose qui m'a frappé, c'est que les terroristes ne se sont pas fait tuer sur place. Et là, alors c'est pas déterminant parce que je crois que Abaoud à Paris, par exemple, ne s'était pas fait tuer sur place de la même manière. Mais ils se sont enfuis d'une manière. On a l'impression que c'est assez professionnel, bien sûr, je mets ça entre guillemets, l'attaque telle qu'elle est faite. Et puis ils s'enfuient dans une voiture. On ne sait pas
vous
où.
Vous avez complètement raison.
Ils partent. On ne sait pas où. Donc, voilà. Donc moi, j'essaie toujours de poser les questions les plus simples du monde et alors, en pensant aux téléspectateurs. Ils sont partis comme ça et c'est très étrange.
Ah bah vous mettez le doigt sur une des curiosités, une des questions qu'on peut se poser. C'est une bonne question parce que personne ne met en doute la revendication de l'État islamique, de Daesh au Khorasan. Personne. Mais elle est même, cette revendication est étrange. Parce que la photo des quatre suspects qu'on retrouve ensuite entre les mains du FSB qui leur fait subir une torture en direct sur le bord de la route où ils ont été arrêtés en leur coupant l'oreille, en leur arrachant la paupière, en les passant ensuite aussi à la gégène. C'est invraisemblable la séquence qu'on a eue. Hein. Mais les quatre types qui sont dans la revendication de l'État islamique ont été photographiés avant de passer à l'acte, semblent bien ceux qui ont fait l'attentat. Ils se ressemblent. L'attentat est mené avec beaucoup de professionnalisme, ils ne manquent pas de sang-froid. Vous me direz que tirer dans le tas, ça ne demande pas énormément de compétences, pas d'être aguerri. Mais quand même, ils font l'attentat et ce sont des mercenaires. Ils l'ont fait pour 5000 euros. On a l'habitude de voir des djihadistes qui se font sauter, qui sont des kamikazes et qui vont jusqu'au bout, qui attendent même l'arrivée de la police pour mourir. C'est exceptionnel qu'ils s'enfuient. Et leur professionnalisme relatif dans l'attentat, va pas de pair avec cette fuite éperdue, on ne sait vers, paraît-il, vers la frontière ukrainienne, ça reste à établir, à démontrer. Il y a un truc qui est étrange. Sauf que ce qui fait taire la rumeur, c'est que la revendication de l'État islamique est prise par tout le monde au sérieux.
Alors, l'autre chose que j'ai évidemment remarqué, c'est l'État islamique, on imaginait qu'il n'était plus capable de faire cela.
Ah ben c'est le contraire.
Alors on l'imaginait, c'est-à-dire que, qu'il était en...
bah, écoutez, la
sur le
dernière,
recul, qu'il avait moins de moyens, moins de...
La semaine dernière, on a fait deux en Allemagne, deux gars du Caucase qui s'apprêtaient à commettre un attentat en Suède, qui préparaient un attentat en Suède. Ils étaient pas loin, arrivés très loin dans les préparatifs. Il y a, au mois de janvier, l'État islamique a encore montré sa capacité à se projeter au-delà des frontières et des vallées afghanes. Ils sont allés taper en Iran et ils ont commis un attentat extrêmement meurtrier, 100 morts, 300 blessés, sur la tombe du général Soleimani en Iran. Ils ont désormais une capacité à taper un peu partout. Vous savez, il y a
très peu de pays... Ils ne nous rassurent pas, évidemment, il y a quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris. Ah,
non, ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que...
Qui seront par définition une cible.
Il y a de quoi s'inquiéter de la permanence de la menace et de la capacité d'une organisation terroriste à nous saigner, parce que le point commun entre la France et la Russie, on est à peu près pareil d'une certaine manière. Les djihadistes détestent la Sainte Russie, hein, comme ils détestent la France mère, fille aînée de l'Église, hein, et laïque en plus. Ils détestent, ils ont une vindicte particulière depuis la guerre en Afghanistan, hein, et depuis la guerre en Tchétchénie. Ils ont deux bonnes raisons d'en vouloir partir, et la guerre en Syrie, et la guerre au Sahel. Mais nous aussi, on a des gens qui sont obstinément dressés contre nous. Et puis le point commun aussi, c'est que la Russie est un pays d'immigration. Une immigration massive venue des alentours et du Caucase notamment, avec une immigration qui est très peu intégrée, une immigration qui est très peu contrôlée, très peu intégrée. Et ça aussi, ça fait penser à la France.
Bon, c'est vrai que lorsqu'on est président de la République, il y a des décisions lourdes à prendre, parce qu'il ne faut pas céder évidemment à la menace. Mais vous êtes Emmanuel Macron aujourd'hui. Il y a une cérémonie des Jeux Olympiques qui est programmée comme jamais elle a eu lieu dans l'histoire des Jeux Olympiques. C'est-à-dire, on est sur la scène, tout est ouvert, il y a 400 000 personnes. Pendant plusieurs heures. Et puis, d'ailleurs, il n'y a pas de plan B hein, pour le moment dans cette cérémonie d'ouverture. Il n'y a pas de plan B d'imaginer. Le plan B, avant, c'était évidemment dans le stade. Bon, moi, la responsabilité est lourde, forcément. Il y a soit le principe de précaution, et Emmanuel Macron dit, ben, on ferme tout. Voilà, et on cède, parce qu'on a peur. Et effectivement, on ferme tout. Il y a trop de risques. Bon. Et soit le président de la République dit, bah, écoutez, on va pas céder devant ça. Et on voit moi j'ai pas la réponse à ça. Hein. J'ai pas la réponse évidemment à ça.
Les renseignements indiqueront.
Mais les renseignements, mais
si effectivement il y a une menace.
Mais Georges, les renseignements, Vladimir Poutine
qui sera vite trouvé, hein, croyez-moi. On pourra pas prendre le risque avec 300 000.
Il n'y a pas de plan B pour le moment.
Ça, c'est ce que disait la ministre des Sports, mais Macron a dit que s'il y avait des plans B.
Je voudrais quand même ajouter Vincent Aouad, il ne faut pas minimiser le fait aussi que depuis le retrait des Américains d'Afghanistan, vous avez la reconstitution de l'État islamique et également d'Al-Qaïda, et qui ont fait déjà plusieurs attentats et qui sont aujourd'hui en capacité de projeter effectivement.
C'est que le repli américain, la fuite est perdue à Kaboul, ça a eu comme conséquence notamment l'ouverture de toutes les prisons en Afghanistan.
Dernière chose,
les aguerris se sont retrouvés sur le terrain. Ils étaient quelques centaines au Khorasan, ils étaient quelques centaines en 2000, quand les Américains sont partis en 2021. Ils sont évalués à 2500 aujourd'hui.
Il y a un point commun entre tous les attentats qui ont été faits par l'État islamique au Khorasan, c'est que donc, que ce soit l'attentat contre l'aéroport de Kaboul au moment du retrait américain, que ce soit l'attentat en Iran ou que ce soit celui-ci, ce sont trois zones qui ont des tensions qui n'ont rien à voir avec eux. Si bien que c'était pas les premières personnes qui étaient soupçonnées quand on a appris l'attentat en Iran, les Iraniens pensaient que c'était peut-être ça venait d'Occident ou d'Israël. À Kaboul, on pensait que c'était peut-être lié aux talibans. Et puis là aussi, on se disait qu'il y avait peut-être un lien avec le conflit ukrainien. C'est intéressant quand même.
On écarte évidemment. L'implication des services russes, même si les services russes ont parfois des coups tordus.
Vous parlez de fake news. Nous qui passons notre temps à discerner sur les fake news,
c'est dit qu'on écartait. Hein.
Franchement. Moi, ça m'a énormément étonné le débat vendredi soir chez nos confrères. Franchement, j'ai été sidéré par le nombre, avant que la revendication de Daesh tombe comme une sorte de pavé dans la soupière qui éclaboussait tous les gens autour de la table. Franchement, on a entendu
des
propos délirants.
Mais c'est pas délirant de constater, de s'interroger quand même sur le fait qu'il a fallu une heure pour les forces de sécurité d'intervenir dans ce centre.
Vous savez, le 7 octobre, le 7 octobre, on a dit exactement la même chose en Israël. Vous pouvez, vous savez, des fois, les faillites
c'est
sont
pas
des
de la
faillites.
Fake news, on constate quelles faillites. Là où Vincent Hervé a raison, c'est que manifestement, les 140 morts russes, il n'y avait pas beaucoup de compassion pour ces 140 morts, s'il vous plaît.
Y compris sur les stades.
Il
n'y
avait pas beaucoup de compassion. Oui, il n'y a pas eu de minute de silence.
Et c'est très étonnant.
Non. Alors, il y a une minute de silence, effectivement, en hommage à Franz Beckenbauer et Andreas Brehme, qui sont deux joueurs allemands qui étaient décédés. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de compassion pour les Russes vendredi soir. Vous avez parfaitement raison. Mais si vous me permettez, donc on écarte les services russes, mais je voulais quand même rappeler que les services russes, de temps en temps, ils ont fait des coups tordus. En 1999, il y avait eu une série de mystérieuses explosions qui avaient permis à Poutine...
Propre des services. Oui,
voilà. D'accord. Mais, et la dernière chose, c'est, on est d'accord, l'hypothèse de l'implication de l'Ukraine, involontaire ou volontaire, est-ce qu'elle est à rejeter complètement ou pas? Même si tous les Russes sont persuadés que c'est l'Ukraine qui est derrière tout ça. Je vous pose la question, est-ce qu'on peut le dire, le savoir ce matin?
Écoutez, Vladimir Poutine, n'ayant pas pu éviter l'attentat, a tendance à vouloir l'exploiter et à ressouder les gens derrière lui... en désignant l'ennemi.
C'est pas ma question.
Il fait penser à Aznar, vous savez, en 2003, quand il y a eu les attentats à Madrid, qui voulait absolument que ce soit le TA. Si les Ukrainiens avaient eu la folie d'organiser un tel attentat, même en prenant toutes sortes de coupes-circuits...
Non, c'est pas ce que j'ai dit, là. Là, je parle des services des Ukrainiens, là.
Si jamais les Ukrainiens avaient eu la folie d'organiser un attentat de ce genre, même avec toutes sortes de courts-circuits, ils auraient pris un risque inouï ou un bénéfice dérisoire. Ils auraient pris le risque inouï de coaguler, que toute l'opinion publique occidentale les dénonce. Cela étant, quand vous entendez M. Zelensky expliquer que jamais la Russie... D'abord que c'est un coup des services russes, c'est stupide, il a dit ça trop tôt. Ensuite, de prétendre que jamais l'Ukraine n'a eu recours au terrorisme, il se moque du monde. Parce que, sans même parler de Nord Stream, on attend toujours quand même la vérité officielle sur l'affaire, l'assassinat avec une voiture piégée de l'intellectuel Dugin à côté de Moscou. C'est sa fille qui a été tuée quand elle a fait démarrer la voiture. L'assassinat avec, là encore, attentat ciblé dans un café à Saint-Pétersbourg d'un blogueur anti-ukrainien. Ce sont des attentats qui ont été quasiment revendiqués par les services ukrainiens.
Mais est-ce qu'on peut totalement exclure, j'ai entendu ça ce matin, je parle sous votre contrôle, que... Alors là, pas du tout le pouvoir ukrainien.
C'est ma question. C'était ma question, il a répondu.
Comment ?
C'était ma question, il vient de répondre.
Non, qu'il y ait eu des projets de les aider à passer de mafia, de. Voilà. Non, c'est pas la même question, Pascal.
Oui, moi, j'en sais rien.
D'accord.
Juste sur Emmanuel Macron, parce qu'il a réagi, comment dire, de manière très succincte dans le JDD, où il apporte son soutien au peuple russe. Et c'était intéressant de voir, par exemple, que la Maison-Blanche disait qu'il y avait un ennemi commun entre la Russie et les États-Unis, qu'est l'État islamique. On a vu que la réaction d'Emmanuel Macron était plus modérée, parce que quelque part, ça percute sa grille de lecture. Je rappelle qu'il nous disait que la Russie était la menace existentielle ces derniers jours. La menace existentielle,
bien sûr.
La Russie. On voit bien que la menace existentielle, c'est l'islamisme.
Si je peux rajouter une petite chose sur la question de la compassion dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai que j'ai été marqué de voir que vendredi soir et samedi matin, au moment où on n'avait pas encore d'informations... Donc dans ce cas-là, sauf si on est un spécialiste absolu, mais sinon on se tait sur les hypothèses, de voir en effet qu'il y a eu des géopoliticiens du vendredi soir qui sont sortis avec des hypothèses qui étaient fantaisistes, et alors que le seul moment, là, était à la compassion pure, sans réserve, inconditionnelle, envers les civils de la Russie. C'est pas la même chose d'avoir une opposition envers un régime ou envers des civils. Et sur l'ennemi commun, quand même, si on regarde ce qui s'est passé lors de la guerre en Syrie, on peut pas totalement dire, c'est le moins qu'on puisse dire, que les actions qu'a menées la Russie étaient des actions qui allaient dans le sens de ce que faisaient la France et la coalition internationale contre Daesh.
Non, mais si
ce qui
se passe à Moscou.
Qui tue en France, c'est plutôt l'islamisme que les Russes.
Il y a eu des islamistes du côté russe dans la guerre en Ukraine. Kadyrov, il a amené des islamistes pour lutter contre lui.
Ce qui se passe à Moscou, on va le voir avec Maxime Le Guay, mais c'est vrai que cette absence de compassion qu'a révélée jusqu'à la minute de silence lors de France-Allemagne, qui n'a pas pensé aux Russes, est toujours intéressant de voir le deux poids, deux mesures.
On sait que la fédération de foot, la ministre des Sports ne soit pas intervenue.
Elle est peut-être précisément intervenue pour... c'est ça qu'on ne sait pas. Je pense que la question a dû se poser. Je n'en sais rien.
C'est même choquant, je dirais.
C'est d'autant plus absurde que le monde entier, sauf l'Océanie, a été frappé depuis 40 ans par le terrorisme qui a fait 200 000 morts. C'est une guerre. Hein.
Je voudrais qu'on voit le guerre, sujet de Maxime Le Guay et voyons ce sujet.
Visage tuméfié et le regard dans le vide, les quatre auteurs présumés de l'attaque de Moscou ont été placés en détention provisoire ce dimanche après leur comparution devant un tribunal de la capitale. Plus tôt dans la journée, le peuple russe endeuillé s'est recueilli, pleurant les victimes du massacre de vendredi dans cette salle de concert qui a fait au moins 137 morts et 182 blessés. Après des heures de traque, les autorités russes ont annoncé l'arrestation de 11 individus, dont les 4 assaillants présumés auteurs de l'attaque. Accusés de terrorisme, 2 des suspects auraient déjà plaidé coupables selon le tribunal. La date de leur procès n'a pas encore été communiquée. Ils encourent la prison à perpétuité.
Bon, c'est vrai, les informations que vous avez données tout à l'heure sur les tortures qui ont été infligées à ces 4 personnes, qui sont 4 terroristes et 4 criminels de haut rang, si j'ose dire, montrent aussi le régime, comment il réagit.
Et filmé. Et montrer.
Et diffuser.
Ça, et montrer.
Le truc, c'est de le diffuser. Ouais. C'est de le mettre sur les réseaux sociaux et de le commenter ensuite à la télé. C'est-à-dire qu'on voit l'arrestation. On ne voit pas le moment de l'arrestation, mais on voit. Ça se passe juste au pied de la voiture accidentée, de cette voiture blanche, là, avec laquelle ils se sont enfuis. On ne sait pas où ça se passe. Mais c'est au bord de la route que l'un des gars est tabassé. Et pire que ça, il est à terre. Et on lui coupe l'oreille, on essaie de lui faire manger par 2 fois. Pardon, stop. Faut pas raconter ça. Pardon, trop tard.
C'est important. On doit dire les choses.
Cette scène bestiale, elle est montrée pour l'édification. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de compassion chez les Russes à regarder ça. Il y a pas beaucoup de ils ont pas ressenti un scandale. Je pense que ce qu'ils voient là, après les gens du FSB, après les avoir longuement interrogés, les livrent à la police pour qu'il y ait un véritable interrogatoire. Mais il y a une sorte de vengeance comme ça, de loi absolument sauvage et immédiate.
Bon, ce qui nous intéresse aussi, bien sûr, c'est les répercussions sur le sol de France. On en a parlé tout à l'heure avec l'urgence attentat. On peut peut-être voir le sujet de Solène Boulan, parce que, bien sûr, les questions que nous allons nous poser ces prochaines semaines, on va être au cœur de cette menace possible.
Il y aura bien école dans les établissements scolaires des Hauts-de-France ce matin, mais dans des conditions de sécurité renforcées. Policiers et gendarmes seront mobilisés toute la journée aux abords des écoles visées. 122 établissements vont exploser, c'est le message envoyé aux parents d'élèves ce week-end dans plusieurs établissements de l'Académie de Lille. Sur place, les habitants sont circonspects.
On entend beaucoup à la télé ou aux informations, mais en vrai, on ne le voit pas vraiment. Donc c'est dur de se projeter dans la vraie vie, du fait que ça va vraiment arriver, c'est vraiment possible.
Je ne suis pas toute la journée en train de me dire que peut-être on est menacé d'attentat.
C'est angoissant. C'est angoissant, c'est inquiétant, c'est énervant parce que ça... Pour peut-être rien en fait, mais ça perturbe tout le monde. Ça crée une insécurité totale.
Je crois qu'on ne fait plus attention et puis après il peut y avoir une attaque comme il y a en Russie aujourd'hui. Quoi.
Dans l'académie voisine à Amiens, le rectorat a reçu des messages du même ordre. 5 établissements sont concernés. Les espaces numériques sur lesquels ont été envoyés ces messages ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Des dépôts de plainte ont été effectués par les chefs d'établissement et par les rectorats pour permettre les premières investigations. Gabriel Attal promet de traquer et sanctionner les auteurs de ces menaces.
La menace existentielle. La menace
qui porte sur des lycées, on voit bien, des lycées qui sont obligés de se hyper protéger aujourd'hui par différents systèmes.
Je fais juste une parenthèse. Oui. J'ai vu des lycées de l'Île-de-France hier.
Oui.
Quel scandale.
Pourquoi ?
Vous avez vu l'état dans lequel
ah oui il... ah non oui, mais oui, ça c'est... oui ça vous
non,
avez
non raison, mais absolument. Vous avez vu mais enfin
c'est
comment
un problème de sécurité c'est
un... oui mais les lycées de Seine-Saint-Denis comment est-il possible c'est Valérie Pécresse qui dirige
oui,
la région Île-de-France
bon, oui.
Je passe mon temps à dire que le conseil régional ne sert à rien je pense que c'est un truc qu'on pourrait enlever demain ça sert à rien mais comment est-il possible que dans la France de 2024 que ce soit le RERB parfois que ce soit les lycées, comment est-il possible que ces pauvres enfants puissent travailler dans ces conditions-là ?
Avec de l'amiante, parfois.
C'est juste... Alors, l'amiante, mais c'est une honte.
Oui, oui.
Mais enfin, c'est invraisemblable. C'est la tiers-mondisation de ce pays à un niveau. Et on, en fait, on ignore ça parce qu'on ne voit pas toujours ces images. Évidemment, quand, c'est toujours la même chose que je vous dis. Quand tu es privilégié, tu vas à Louis-le-Grand, tu vas dans le privé. En fait, tu as deux Frances. Tu as la France des nantis, dont vous faites partie, dont je fais partie. Aucun souci. Aucun souci. Ni de sécurité, ni de drogue, ni d'hôpital, ni d'école, ni rien du tout. Et puis, il y a la France des gens qui n'ont pas cette chance-là. Ben, c'est scandaleux.
Oui, bon.
C'est un scandale.
On le voit souvent à Marseille.
La région Île-de-France va réagir. Enfin, j'imagine.
Enfin, mais, c'est... Y a un scandale l'autre jour, c'était à Sevran, je crois. Non, à Cachan. C'était à Cachan.
Oui, oui.
Enfin, c'est invraisemblable le niveau de ces lycées. T'es prof, mais tu te dis, mais où est l'État?
Bien sûr.
En fait, tout ce qui ne marche pas en France, c'est lié à l'État. Tout ce qui marche plutôt bien, c'est le privé.
Oui.
Ça marche très bien, le privé. Les chefs d'entreprise, ils sont très bons en France. Il n'y a pas de souci. Et dès que l'État se mêle de quelque chose, c'est une catastrophe. Oui. Et on paye le plus d'impôts au monde. Oui. Bon, bah, comprenez quelque chose.
Et pourtant, les régions ont fait beaucoup pour la protection des lycées, vous savez.
Ah bah, on le voit.
Mais je vous assure.
On le voit. On le voit. Thomas Hill est là pour faire le passage. Thomas Hill, mais vous prenez jamais de vacances, alors. Ah oui, c'est pas les vacances de Pâques encore.
Semaine en avril.
Ah oui, c'est pas les vacances de Pâques encore. Bon, c'est la semaine sainte. J'espère que vous serez touchés par...
La grâce.
Il y a du boulot, mais on ne sait jamais. Il faut espérer.
Merci Pascal.
Merci. Bonne émission. Merci Thomas. On va marquer une pause. À tout de suite. Noémie Schulz nous a rejoint. Vous avez de la chance d'ailleurs d'être chroniqueuse éditorialiste judiciaire en France, parce que vous devriez commenter l'actualité judiciaire en Russie.
Oui, c'est pas évident.
Ce serait plus compliqué. Somaïa.
L'émission n'existerait pas déjà.
Comment ?
L'émission n'existerait pas.
Ça dépend pourquoi vous dites ça.
Rouge,
ça
en Russie ? Vous oui, on est pro. Bonne chance.
Nous aurions du courage, monsieur.
Ah oui,
dans n'importe quel
numéro, peut-être 3 maximum.
Dans n'importe. Somaïa Labidi. Bonjour, Somaïa.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Plusieurs opérations PlaceNet XXL actuellement en cours dans plusieurs villes, dont à Lille. Lille où se rendra Gérald Darmanin dans la matinée avant un point presse du ministre à Roubaix pour présenter un premier bilan de ses nouvelles opérations anti-drogue. Le niveau le plus élevé, le plan Vigipirate monte à urgence attentat, un choix annoncé par Gabriel Attal à l'issue d'un conseil de défense hier soir à l'Elysée sur l'attentat de Moscou et ses conséquences. Et justement, les 4 assaillants présumés de l'attentat de Moscou en détention provisoire après avoir fait plus de 130 morts lors de l'attaque d'une salle de concert vendredi. Une attaque revendiquée par l'État islamique.
Somaïa, et mon regard va se tourner vers l'excellent, toujours Georges Fenech, puisqu'on va parler de Rachida Dati, un sondage exclusif. Rachida Dati en position de force pour les municipales à Paris. Selon un sondage Ipsos publié par la Tribune dimanche, la ministre de la Culture serait largement en tête des élections municipales à Paris. Paris qui est dans un état, madame, messieurs. Je suis à Paris depuis 86, je n'ai jamais vu ça. La place de l'Arc de Triomphe, qui est, et ça vous fait sourire, moi ça ne me fait pas sourire. C'est-à-dire que la place de l'Étoile, qui était un des derniers endroits où tu pouvais rouler à Paris, ils ont été la couper en deux.
Alors, il y a une polémique sur ce sondage. Il faut dire que l'Ipsos a bien précisé que c'était le panel était bien parisien, parce qu'il y a eu une polémique. Oui. L'entourage de Anne Hidalgo qui a essayé de dire vous avez pris un panel à l'échelle de la France. Non,
c'est
bien
parisien.
Un panel parisien. C'est important de le préciser parce qu'il y a une polémique
alors,
ce week-end.
Évidemment, Rachida Dati, elle gagne dans une seule condition, c'est si.
L'union.
Voilà, union macroniste et DLR. Et
ils vont s'y résoudre, franchement.
Mais vous verrez que Georges Fenech. La droite la plus bête du monde, ils sont capables de présenter un candidat LR contre Rachida Dati.
Vraiment dans ce cas-là. Oui.
Ah mais je les connais, mais je les connais.
Il y avait longtemps.
Je les connais par cœur.
La rancœur les guiderait.
Je les connais par cœur. Ils ont bien montré depuis 40 ans ce dont ils sont capables.
Moi, je crois que Rachida Dati est sans aucun doute la meilleure des candidates pour Paris.
L'autre jour, vous étiez. Il y a un mois, c'était.
Est-ce qu'on peut sortir les archives ?
Il y a un mois, votre frère disait le contraire sur ce plateau.
Non, j'ai pas dit le contraire.
C'est bien. D'accord.
Vous avez dit qu'il n'y aurait pas d'union.
J'ai regretté, effectivement.
Vous êtes revenu, alors. Derrière Rachida Dati.
À la culture, elle excelle, manifestement.
Oui. Elle excelle à la culture ?
Ah oui, ça nous change.
Je dis une chose quand même à Madame la Ministre, si je me permets. Michel Sardou fait sa dernière vendredi à Brest. Vendredi à Brest. Oui. Parfois, on célèbre les morts. Je voudrais qu'on célèbre les vivants. Oui. C'est sa dernière, la der des der.
Oui.
J'espère qu'il y aura du monde, de l'État,
pour célébrer la dernière de Michel Sardou, représentant de l'État.
Vous y avez été vous-même d'ailleurs.
Oui, mais moi je ne représente pas l'État, a priori, pas encore. Je n'ai pas cette ambition. Bon, donc, ah oui, finalement, alors vous trouvez ça bien.
D'accord. Je pense, elle l'a prouvé à la mairie du 7e aussi. Hein.
Ah non, mais là, c'est oui, incroyable, alors, c'est par rapport à ce que.
La mairie du 7e, c'est moi. Un micro, quoi, c'est une enclave quand même.
Oui.
Bon, donc Yannick Jadot est à 18 et Anne Hidalgo est à 14. Elle est toute seule.
Le RN. Et. Plus de 10% pour le Rassemblement national à Paris. C'est ouais. énorme. 11% ouais. pour Thierry Mariani. Ouais. C'est vraiment. Donc c'est
oui, parce qu'à Paris, effectivement, le RN est toujours faible.
Il pourrait être faiseur de roi au second tour, Thierry Mariani. Il faut savoir que 11% à Paris, c'est une déflagration et ça montre la progression du Rassemblement national partout en France. Et dans
Thierry Mariani, c'est un ancien de votre maison.
C'est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, oui.
Donc vous voyez, il y a quand même tout ça, des passerelles entre tous ces gens-là. La preuve, c'est qu'il a été ministre de Nicolas Sarkozy comme. On va parler de Mme Sorel dans une seconde, mais il y a des passerelles, manifestement, entre RN, Reconquête, LR. Non, il y a des passerelles. On peut le dire comme ça. Je ne dis pas que vous pensez exactement pareil.
Et il faut quand même dire une chose. Chaque parti je l'ai dit déjà, sa propre histoire.
Oui, d'accord.
Oui.
Ça, c'est la phrase numéro 8.
Son propre projet, laisser vivre la démocratie.
Mais pourquoi ça, c'est la phrase numéro 9.
Laissez vivre la démocratie.
Ça, c'est la phrase numéro 9. Laissez vivre la démocratie.
Ben oui.
Mais non, mais vous avez parfaitement raison. Laissez vivre. Laissez-les vivre.
Laissez les opinions s'exprimer.
Oui, bah, ils s'expriment, là. Il est
présenté.
Vous vous rappelez combien elle a fait Non, mais franchement, la dernière fois, alors qu'on disait tous, bon, peut-être un peu.
Mais elle va se présenter ou pas déjà?
Qui que c'était non. mort pour Anne Hidalgo, etc. Rappelez-vous combien a fait Rachida Dati. Donc,
oui, mais bon. Pas...
Non, non,
mais...
moi je suis prudente parce que.
Mais elle se présente, madame.
J'ai annoncé la chute d'Hidalgo déjà plusieurs fois.
Madame Hidalgo, elle se présente.
Alors, elle avait dit que non.
On ne sait pas.
Et bon. Puis finalement, au vu du bilan qu'elle juge positif,
oui.
Elle pourrait se présenter. Elle est en guerre avec bon. Son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, qui aimerait bien prendre la place. Le coup suivant. Bon.
Il faut dire une chose, c'est que ce sondage...
Donc Georges, on ne parle plus de politique avec Georges. Voilà. Parce qu'autrement, vous allez on va vous compter comme un homme politique. Bon, donc,
je suis toujours un citoyen libre de sa parole.
Hein. Oui, vous êtes tout à fait libre. Bon. Mais il y a ce mot génial de François Mitterrand quand Valéry Giscard d'Estaing avait présenté sa candidature. Mitterrand avait dit, il nous présente sa candidature en 81, je pensais qu'il nous présenterait ses excuses. Et c'est un mot de Mitterrand qui était... Bon. Il peut s'adapter à d'autres.
C'est un jeu de
Il peut s'adapter à d'autres. Bon, sondage national cette fois-ci avec le RN. Alors le RN qui est à 30%. Le RN, est-ce qu'on a le RN ?
Il n'y a qu'une liste qui a fait plus de 30% aux élections européennes, c'est la liste de Simone Veil. Donc si le RN fait plus de 30% aux élections européennes, ça serait vraiment un événement majeur parce que ça n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire avec Simone Veil.
Je vais dire que je suis inquiet pour Madame Hayé. Je ne vais pas en dire davantage. Mais
elle augmente dans le dernier sondage.
Ah bon, bah alors je suis moins inquiet. Tant mieux.
De 2%.
Tant mieux. Est-ce qu'on a le sondage là Non, ah ben on ne l'a pas. Bon, donc on va écouter Malika Sorel, puisqu'elle est désormais deuxième sur la tête de liste. C'est une surprise ?
Alors oui, c'est une surprise. C'est-à-dire que c'est une sarkozyste, hein. C'est une filloniste. Elle a travaillé aussi avec Dominique de Villepin. Elle a dit ce matin chez Sonia Mabrouk que Dominique de Villepin était son maître. On sent bien la stratégie de Jordan Bardella, c'est capter l'électorat sarkozyste qui résiste souvent à Marine Le Pen et qui est sans doute plus enclin à voter pour Jordan Bardella, qui a une image plus libérale sur les idées aussi économiques. Et il y a une volonté très claire. J'en discutais avec l'entourage de Jordan Bardella hier. C'est le débat leur a un peu échappé. Au début, c'était sur l'agriculture. Ensuite, ça a été mis par la volonté du président de la République sur l'Ukraine. Il y a une volonté très claire avec Malika Sorel, mais aussi avec Fabrice Leggeri, qui est troisième de liste et qui est l'ancien patron de Frontex, les gardes-côtes européens. C'est ramener le débat sur l'immigration pour les mois qui viennent jusqu'au 9 juin.
Et Elisabeth Lévy.
Un petit scoop. Moi, j'ai une interview de Jordan Bardella dans le prochain causeur et il nous a dit cette phrase extraordinaire. Il a dit « Ah, la France se gagne au centre ». Qui est quand même une phrase assez giscardienne, je trouve. Donc on voit bien, c'est pour confirmer.
Non, mais il y a une stratégie du Rassemblement national.
Vous avez vu qu'ils ont repris aussi le logo RPR.
Oui, oui.
Et ils organisent les états généraux de l'immigration avec le logo RPR qui était redevenu disponible. C'est quand même.
Et ils parlent de Sarkozy 2007.
Oui, ils
ont recréé un micro-parti au sein de l'État qui s'appelle RPR.
C'est une stratégie. Il y a beaucoup de gens de droite. Oui. Qui sont nostalgiques du RPR. Vous savez, vous écoutez Chirac en 86, sur la campagne 86-88. Oui. Voilà, les gens aujourd'hui sont plus à gauche que lui. Hein. C'est ça.
Malika Sorel, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Républicains. D'ailleurs, Éric Ciotti a été très véhément à son encontre hier au Grand Rendez-vous.
Ensuite, quand on regarde quand même les thèmes, ce que vous dites, ça supposerait que des candidats puissent comme ça imposer leur thème. Moi, il me semble que dans c'est le moment fait. Qu'on est en train de traverser, surtout quand on parle d'élections européennes, on n'est pas...
Malika Sorel.
Même quand on a imposé son thème, Jordan Bardella, pour gagner l'élection, il a plus de 30%.
Bah, l'immigration, c'est un des thèmes qui va s'imposer. Malika Sorel, c'est une de celles qui, depuis fort longtemps, explique comment on est en train de devenir dingue. Et Malika Sorel est elle-même issue de l'immigration. On ne va pas la soupçonner de racisme, etc.
Mais quand on a le vice-président du Parlement russe qui dit qu'ils sont en train de calculer, même si c'est sur le ton de la boutade, qu'ils sont en train de calculer le nombre de minutes qu'il faut pour attaquer Paris avec une arme atomique.
Donc on va parler de l'Ukraine.
Non, mais estimer que le Malika. Parti qui doit être en tête, c'est un parti qui a eu les liens et qui continue avec la Russie, c'est quand même quelque chose de baroque.
Tout le monde a été naïf avec Poutine. Est-ce que depuis le 22 février 2022, tout le monde, y compris le RN, y compris Reconquête, a condamné fermement l'invasion russe. Donc,
c'est pas le sujet.
Je trouve ce procès, tout le monde c'est a été naïf procès, avec la Russie.
Avant l'invasion en Ukraine, Marine Le Pen disait qu'elle était l'équivalent de Vladimir Poutine pour la France et de Donald Trump pour les États-Unis. C'est
d'accord
qu'elle se présentait.
Non, mais avant l'invasion en Russie, Emmanuel Macron recevait Vladimir Poutine avec comme son grand ami le
président de la République qui fait de la diplomatie.
On
va écouter Malika Sorel. Mais manifestement, ces arguments-là, ils touchent pas le public. Parce qu'en fait, tout le monde a compris qu'il y a avant et après l'invasion.
Mais il le touchera peut-être dans 30 ans. Il touchera peut-être les historiens dans 30 ans. Qui sait qui touche le public ou non.
Ce procès,
Covid, les arguments qu'on tenait ne touchent pas le public non.
Faire un procès à un homme politique sur un leader politique avant que ce leader politique ait fait des choses nouvelles qui fait qu'on peut changer d'avis sur lui me paraît étrange.
Ah non, franchement, Nathan.
Allez, écoutons Malik.
Non, ça marche pas.
Non, ça marche pas.
Il n'avait pas rien fait, Vladimir Poutine, avant. Il avait fait la même chose en Syrie.
Mais
il avait fait la même chose en
Libye. Et alors Emmanuel Macron est un salaud.
Alors, vous avez raison.
Macron est un salaud, alors.
Non, Macron n'a pas reconnu.
Ça n'a rien à voir. Macron n'a jamais dit qu'il était. Vladimir Poutine a fait campagne contre Macron en 2017. Il a fait des fake news pendant l'élection de 2017 pour qu'Emmanuel Macron ne soit pas élu.
Donc, Macron ne l'a pas.
Emmanuel Macron d'être le copain de Vladimir Poutine.
Non, mais il y en a un qui est chef d'État, l'autre qui est dans l'opposition. Ça n'a rien à voir.
C'est absurde. Et je dis pas ça pour le défendre.
Et par ailleurs, s'il y avait eu de
être désagréable, mais je veux bien qu'on cite les responsables de certains pays qu'on reçoit parfois à l'Élysée. Je vous assure, ça.
On les reçoit pas à Brégançon pour autant. Recevoir à l'Élysée avec le protocole minimum, c'est pas recevoir en famille dans la résidence d'été. Il y a une différence quand même.
Bah, tu discutes, mais là, pardonnez-moi, mais je pense que Manuel Emmanuel.
Protocole à Versailles et grande amitié à Brégançon.
Mais je pense qu'il avait raison. Discutes avec la Russie, Vincent Hervouet. Pardonnez-moi, mais Emmanuel Macron avait raison.
Si vous voulez,
il avait raison.
C'était pas le lot commun. C'était pas en plus ce traitement réservé à quelqu'un qui vous avait combattu pour se faire élire.
Mais c'est comme Donald Trump a été élu.
Votre argument est totalement fallacieux.
Écoutons, pas du tout. Si. C'est comme quand Donald Trump a été élu.
Et en plus, il est inefficace. Parce que, vous le vouliez ou non, les Français, aujourd'hui, se définissent, si j'en crois les sondages, c'est plutôt un vote contre l'immigration, quel que soit le candidat. Mais c'est un peu comme les référendums. Ils votent non.
Mais encore,
la question.
Peut-être que c'est en effet le cas de l'opinion publique, mais encore une fois, quand on voit le moment qu'on traverse, dire que c'est le sujet prioritaire et majeur, ça me semble être très
bien. Non.
Bon, allez, on va écouter Malika Sorel, mais au-delà de tout ça, il y a aussi la grande chance, entre guillemets, du Rassemblement National, c'est le seul parti qui n'a pas été au pouvoir. Oui. Donc tu vois bien, quand je parle tout à l'heure des lycées, quand je vous parle des hôpitaux, quand je vous parle de la justice, quand vous entendez ce qu'ont dit les magistrats, quand vous entendez les agriculteurs, quand vous entendez l'État dans lequel est ce pays, sur le plan uniquement de l'État, du fonctionnement. Elisabeth, s'il vous plaît, concentrez-vous. Donc tu te dis effectivement, quelqu'un qui dit autre chose est forcément plus entendu.
Évidemment.
Puisque tu peux te dire, avec lui, ça marchera mieux. C'est ça la grande force du RN. Voilà, puisque tu arrives à 7 ans d'Emmanuel Macron, et c'est vrai qu'il y a des choses, lui-même, il y a 15 jours, va voir les hauts fonctionnaires et leur dit, c'est Bibi qui est responsable, mais vous ne faites pas ce que je veux. Et vous avez 4 magistrats qui se font engueuler parce qu'ils ont simplement dit, on a perdu la guerre. Contre et que Marseille est une narcoville.
L'explosion de la dette.
Ça fait quand même beaucoup.
Je suis d'accord avec vous.
C'est ça le succès entre guillemets du RN.
Évidemment.
Signe du RN, c'est vraiment pas bien.
Bon, je crois que vous l'avez dit. En revanche, je voudrais qu'on écoute Malika Sorel qu'on devait écouter il y a 5 minutes.
Il y a vous qui ne vous répétez jamais, c'est vrai.
C'est vrai. Je suis assez d'accord avec vous. Je suis d'accord. Bonne ambiance ce matin.
Bonne ambiance.
La semaine sainte a commencé. Tout à l'heure de l'Esprit Saint et le chemin de croix.
Vous avez 14 stations alors.
D'accord. Il n'y a que 6 émissions.
Écoutons en cette semaine, Pascal, écoutons Malika Sorel.
Le fait que je rejoigne la liste portée par Jordan Bardella était une évidence.
Une évidence ?
Une évidence. C'est dans la continuité de ce que j'ai fait. Si vous vous souvenez, Marcel Gauchet, le grand philosophe Marcel Gauchet, avait dit à votre micro, le parti de Marine Le Pen, c'est un parti qui ressemble au RPF du général de Gaulle, qui est social et national. Je m'y retrouve pleinement, parce que je viens de vous dire, je suis gaulliste.
Et André Vanini me signale que Hollande n'a jamais été naïf avec Poutine, dit-il. Il a annulé la vente des bateaux de la guerre à la Russie.
On dit souvent. Le chemin parcouru, c'est une gaulliste qui oui. adhère au RN. Vous imaginez, il y a quelques décennies, le gaullisme qui était l'ennemi du Front National.
Mais enfin, on peut se répéter en permanence, mais entre Jean-Marie Le Pen et Jordan Bardella, il n'y a pas beaucoup de points communs.
Il y a un monde.
Il n'y a pas beaucoup de points communs.
Génération.
Voilà. Et d'ailleurs, certains le regrettent, ceux qui sont très à droite le regrettent. Il trouve qu'effectivement, il y a une sorte d'affadissement du Rassemblement National et qu'il est devenu un parti attrape-tout.
Il faut donc bien voir qui caracole en tête dans les sondages. La stratégie est plutôt bonne si on en croit les sondages.
Oui, oui, mais oui, sans doute.
Celui qui veut le pouvoir, évidemment, il adoucit son discours.
Noémie Schultz, on est en retard. Ce procès du harcèlement, cette petite Eva L, on va voir le sujet, mais dites-nous de quoi il s'agit.
On a appris en fin de semaine dernière qu'une professeure de français au collège allait être jugée pour harcèlement moral sur plusieurs élèves, notamment Eva L, une petite fille qui s'est suicidée en juin 2019 à l'âge de 11 ans. Et alors c'est toujours difficile de dire est-ce que c'est une première ou pas, parce qu'il n'y a pas de recensement, mais c'est très rare qu'un professeur, quand on parle de harcèlement scolaire, généralement dans l'esprit des gens, ce sont les élèves entre eux qui se harcèlent. Et dans cette affaire-là, il y a eu cette enfant, cette petite fille a été harcelée par des camarades, mais ce harcèlement a sans doute été alimenté par l'attitude de cette enseignante à son égard, et qui notamment s'est avéré, parce que beaucoup d'élèves l'ont raconté, avait ses chouchous et ses têtes. Et les élèves qui ne lui revenaient pas, et ben leur, il y avait un traitement particulièrement dur, et c'est ce qu'a subi Eva L. Et donc on a recueilli le témoignage de ses parents en fin de semaine dernière.
Bah, vous voulez qu'on écoute peut-être ses parents? D'abord, cette professeure n'exerce plus aujourd'hui?
Elle n'exerce plus depuis. Elle a exercé encore pendant un an après la mort d'Eva L, jusqu'à ce qu'elle soit mise en examen, placée sous contrôle judiciaire. Elle a interdiction d'être au contact de mineurs. Aujourd'hui, elle a 62 ans. Cette enseignante, elle nie complètement les faits qui lui sont reprochés. Elle parle de liberté pédagogique. Elle dit qu'effectivement, il y a eu notamment une heure de classe qu'elle a consacrée. Elle a demandé à Eva L de se mettre au milieu de la classe elle a demandé aux élèves « Pourquoi pensez-vous qu'Eva L est harcelée ?» Et les élèves parlaient, et Eva L a pleuré pendant toute cette heure de vie de classe. Ça a été un moment, Eva L avait dit à l'époque que ça avait été la journée la plus dure de sa courte vie. Cette enseignante a une vision totalement différente. Elle dit que cette heure de classe s'est bien passée, que ça a été l'occasion pour les élèves de s'exprimer. Et donc elle nie formellement ce qui lui est reproché.
Écoutons les parents d'Eva L.
Ce qu'on attend depuis le début, c'est d'avoir une reconnaissance officielle du statut de victime de notre fille. Parce que pour l'instant, tout ça, c'est nous qui disons qu'elle a été harcelée, d'autres personnes le disent, mais tant que ce n'est pas jugé, ils sont présumés harceleurs et notre fille est présumée victime, on va dire. Donc ça, c'est très important pour la reconnaissance. Et puis après, il y a aussi, c'est montrer à plein de gens qu'il faut faire attention de différentes manières, c'est-à-dire par exemple à d'autres professeurs, peut-être qu'ils se posent la question de leur attitude envers les élèves. Est-ce que j'ai la bonne attitude? Est-ce que je ne vais pas trop loin vis-à-vis des élèves? Parce qu'effectivement, nous, on peut considérer que c'est pas si important que ça, sauf qu'on a un impact très fort de par la posture de référent de professeur vis-à-vis de ses élèves qui sont très jeunes. On parle d'élèves qui ont 10-11 ans en 6e.
Alors, c'est une histoire à la fois dramatique et évidemment sidérante. Je voudrais qu'on voit le sujet parce que dans le sujet, on va voir des photos de cette jeune Eva L.
Marie et Sébastien Dupuis en sont convaincus. Leur fille Eva L s'est suicidée parce qu'elle était harcelée par des camarades, mais aussi par sa professeure de français. La juge d'instruction estime que les propos, le comportement répété de l'enseignante ont dégradé les conditions de vie d'Eva L.
En l'isolant dans la classe, en la disputant tous les jours, parce que bon, en sixième, le français c'est presque tous les jours, donc à chaque cours, lui hurler dessus.
Ça c'est très bien dit dans les témoignages, que le harcèlement des élèves a commencé sur les mêmes remarques de la professeure, mais en dehors des cours de français. Elle a participé à la prise de décision d'Evel de se suicider.
Après des années de combats judiciaires pour faire reconnaître le harcèlement de leur fille, l'annonce d'un procès en 2025 est évidemment accueillie avec un immense soulagement.
C'est important, on se sent beaucoup moins seul. Je veux dire, on va dire quelque part, il y a des professionnels qui, sur des faits, et pas sur des sentiments parce qu'ils ont connu Evel, tout ça, portent le même jugement que nous. Maintenant, c'est une étape très importante. Il en reste une deuxième, le procès.
Au-delà d'une condamnation de l'enseignante, les parents d'Evel espèrent que ce procès amènera à une prise de conscience collective sur le fléau du harcèlement en milieu scolaire.
Témoignage plein de dignité, d'intelligence des parents.
Ils sont incroyables, ces parents. Et ce qui est assez terrifiant pour les parents, mais pour, c'est qu'ils ont tout fait. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont perçu le mal-être d'Evaël. Ils l'ont changé d'établissement. Ils sont allés voir le directeur du collège. Il y a des affaires parfois, il y a des cas où on apprend qu'un enfant s'est suicidé et les parents tombent des nues et découvrent qu'il était harcelé à l'école, mais ils ne l'avaient jamais suspecté. Et donc, dans ces cas-là, on se dit ils n'ont rien pu faire. Ce n'est pas du tout le cas. Là, alors, Evel était une petite fille sans doute très fragile, qui avait fait une première tentative de suicide plusieurs mois auparavant. Mais ils avaient pleinement conscience de ce qu'elle vivait dans son établissement scolaire. Ils sont allés voir le chef d'établissement. Ils ont demandé à ce qu'elle n'aille plus dans ce cours de français. Ils se sont heurtés à des murs. Ils ont fini par la changer de collège, mais la mettre dans un autre collège de la même ville, où vraisemblablement, ça s'est su qu'elle était harcelée dans le précédent collège, et les faits se sont reproduits. Et ce qui est vraiment terrible dans cette affaire, c'est qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus, ces parents? Elle voyait une psychologue, ça faisait plusieurs mois qu'elle était suivie, mais la psychologue a dit après coup qu'elle commençait tout juste en fait, à s'ouvrir, à parler de ce qu'elle avait, vécu. Et vous savez, c'est une affaire qui avait beaucoup marqué l'opinion publique. Il y a une loi sur le harcèlement scolaire qui est passée depuis et qui punit beaucoup plus sévèrement, notamment les adultes. Parce que ce que cette enseignante qui est jugée donc pour harcèlement moral, elle a peine encourue, elle est, je crois, de 3 ans de prison.
Devant quel tribunal ?
Un tribunal correctionnel de Pontoise. Il y a 2 élèves, par ailleurs, qui sont également renvoyés devant la justice. Alors, ils vont être jugés par un tribunal des enfants. Mais ils avaient 11 ans à l'époque. Ils vont être jugés quand ils en auront 15 ou 16. Là encore, le temps qui s'est écoulé fait que ce sera difficile, sans doute, pour eux de retourner dans le temps. Mais voilà, je crois que c'était important.
Le procès, c'est aujourd'hui.
On a appris, que cette enseignante allait être jugée. D'accord, et ce sera en 2025.
En 2025, d'accord, excusez-moi. Merci beaucoup, Noémie Schuss. On va marquer une pause. On va recevoir Bernard-Henri Lévy, Solitude d'Israël. C'est un livre extrêmement important, me semble-t-il, avec de multiples questions sur être juif en France. En 2024, c'est l'une des questions. Et puis, nous pourrons évidemment échanger sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. On va marquer une pause. À tout de suite. Bernard-Henri Lévy est avec nous ce matin, Solitude d'Israël. On va en parler, je disais tout à l'heure, comment être juif aujourd'hui en France en 2024. C'est une question. On peut également s'intéresser sur, et vous le dites d'ailleurs dans ce livre, « Jamais les juifs ne seront paisibles nulle part ». C'est une des phrases les plus fortes de ce livre, Solitude d'Israël, qui est sorti chez Grasset, qui est sorti ces derniers jours.
Qui est sorti il y a mercredi dernier.
Et qui est sûrement alors tous vos livres sont importants sans doute, mais celui-là est personnel par définition. Peut-être plus que les autres.
Oui, il est personnel et puis c'est un rendez-vous aussi. Mais c'est surtout... Oui, il est personnel, mais c'est aussi une promesse que j'ai faite. Vous savez, je suis allé en Israël le lendemain du 7 octobre. Mmh. Le lendemain du pogrom gigantesque du 7 octobre, cet événement hallucinant, totalement nouveau. Je m'y suis rendu aussitôt. Et là, j'ai passé du temps avec les familles d'otages, avec les soldats de Tsahal qui commençaient d'arriver à la frontière de Gaza, et avec les premiers témoins qui commençaient de parler de l'abomination et de la tuerie. Et je leur ai fait un serment. Voilà. Je leur ai dit, ces jours-là, cette semaine-là, que j'écrirai tout ça, que j'essaierai d'en tirer les leçons, et en tout cas de me faire le porte-voix de ce qui
on va en parler ensemble, même s'il existe évidemment des opinions contradictoires. Certains vous ont peut-être vu samedi soir face à Natacha Polony dans un échange qui était intéressant pour certains et sur lequel on pourra revenir dans notre émission. Mais évidemment, priorité d'abord à votre livre. Somaïa Labidi, le rappel des titres.
Des lycées des Hauts-de-France visés par des menaces terroristes, des mails ont été envoyés à des élèves de l'Académie d'Amiens. Parents et professeurs sont encore sous le choc. Près de 4 millions d'euros de promesses de dons, c'est le bilan de la 30e édition du SIDAction, montant similaire à celui récolté l'an passé. La collecte lancée vendredi reste ouverte jusqu'au 12 avril prochain. Et puis, nouvel épisode judiciaire pour Donald Trump. Le candidat à la Maison-Blanche doit garantir le paiement de son amende d'un demi-milliard de dollars. Amende pour fraude financière. Sans cette caution, il pourrait être forcé de vendre ses biens immobiliers ou encore de les voir saisis.
Merci Somaïa. Avant d'imaginer les analyses, les commentaires, les conséquences, d'abord deux ou trois choses. Comment le Mossad a-t-il pu ne pas anticiper, ne pas savoir ce qui allait se passer le 7 octobre ?
Parce que c'était inimaginable. Parce que là, il y a des événements dans l'histoire qui sont tellement... qui ne se sont jamais produits, qui sont incalculables.
Enfin, ça, c'est pas convaincant.
Mais c'est convaincant.
Parce que le renseignement s'est fait pour ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui, que ce soit une image gitane, d'accord,
oui.
Mais comment le Mossad n'a-t-il pas les renseignements ?
Il y aura une commission. Je pense qu'ils avaient les renseignements. Je pense qu'ils savaient qu'il y avait des exercices qui se produisaient à Gaza, des simulations d'un attentat terroriste géant. Mais comme dans le même moment, les leaders palestiniens, notamment Yahya Sinwar, faisaient les bons garçons, négociaient, ouvraient des hôtels de luxe dans les beaux quartiers de Gaza. On avait le sentiment, les services israéliens avaient le sentiment qu'il y avait d'un côté des manœuvres à usage domestique pour entretenir le moral des plus fanatiques des troupes du Hamas, et que de l'autre côté, le leadership du Hamas est en train de s'assagir. Je crois vraiment que c'est ce qu'ont pensé les Israéliens.
Pourquoi dites-vous que tous les événements ne sont pas des événements ?
Parce qu'il y a des événements qui se répètent, et puis il y a des événements qui, comme les signes noirs en économie, qui ne se sont jamais produits, dont le scénario... Le 11 septembre, par exemple, est un événement majuscule, avec un grand E. On n'avait jamais vu des avions se jeter sur des tours et le symbole de la plus grande capitale du monde. On n'a jamais vu, nulle part d'ailleurs, pas seulement Israël, pas seulement les Juifs, mais on n'a jamais vu l'invasion d'un pays de cette nature-là. Des hommes... avec une telle sauvagerie, avec un tel raffinement dans la cruauté, entrant dans un pays, le violant les femmes qui s'y trouvent, organisant une sorte de battue, emportant des centaines d'otages comme autrefois à l'époque des Romains, les Sabines.
Et vous parlez de cette femme d'ailleurs que tout le monde a vue, ce qui est une image terrible, et je pense à sa famille, bien sûr, qui est sur un pick-up et on la voit prise en otage.
Voilà, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des barbares. Vous savez, les nazis cachaient leurs crimes. Et c'était même un des principes, d'ailleurs, là. Pas d'ordre écrit et pas de traces. Les staliniens cachaient leurs crimes aussi. Staline faisait tourner des moteurs de camions devant les portes de la Loubianka pour qu'on n'entende pas les cris des torturés. Là, les islamistes du Hamas, ils les ont filmés. Ils avaient une GoPro sur leur casque et ils filmaient les tueries. Et une fois que c'était filmé, une fois qu'ils avaient réduit en bouillie la tête d'un juif ou en bouillie le corps d'une femme juive, ils l'exhibaient sur les réseaux sociaux. Ils l'envoyaient à leur famille en leur demandant si elle était leur famille fière de ce qu'il venait de faire. Donc ça, cela, je crois, on ne l'a pas vu. C'est un événement nouveau, donc c'est ce que j'appelle...
Vous êtes sur une position que tout le monde n'a pas, et je pense notamment Emmanuel Macron n'a pas cette position. C'est le mot « cessez le feu ». Et même Anne Sinclair, l'autre jour, a pris position. Et c'est important aussi de voir qu'à l'intérieur de la communauté juive en France, ce débat existe fortement. Et beaucoup de juifs même disent parfois « pas en mon nom ». J'ai entendu cela. J'ai entendu ça même, je crois que c'est M. Ganzer, qui est un cinéaste allemand, lorsqu'il a eu l'autre jour les Oscars, un des Oscars de son film, etc. Bon.
Jonathan Glazer.
Pour la zone bon, exactement. Donc là, il y a discussion, précisément sur cesser le feu. Pourquoi ne considérez-vous que le mot cesser le feu n'est absolument pas adapté à la situation?
Mais ce n'est pas le mot. Un cessez-le-feu pour libérer les otages, ça a été fait au mois de novembre dernier. Oui, bien sûr, je suis pour, parce que la priorité absolue, c'est de libérer les otages. En tout cas, c'est une des priorités de cette guerre. Mais un cessez-le-feu en donnant la victoire au Hamas, en laissant ces assassins, ces sauvages en place, en les laissant triompher et pavoiser, ce serait une défaite pour Israël, une défaite pour les démocraties, une défaite pour l'Occident, absolument sans précédent. Je suis contre ce cessez-le-feu-là parce que, quand on réfléchit bien, on ne l'a pas fait en 2001, quand on est allé chercher Al-Qaïda en Afghanistan. On n'a pas dit brusquement, il y a trop de morts, cessez-le-feu.
Mais alors pourquoi Emmanuel Macron et d'autres sont-ils sur cette position ?
Eh bien, parce qu'ils sont intoxiqués par le déluge de mensonges, de contre-vérités, de désinformations qui nous tombent sur la tête.
Lesquelles ? Par exemple, le nombre de morts de Gaza, vous le remettez en cause ?
Mais il est faux. Le nombre de morts...
On dit 30 000, 40 000 ?
Mais il est faux. Il est nécessairement faux pour des raisons très simples, très objectives. Il confond les combattants et les civils. Par exemple, il confond ceux des morts qui sont morts sous les bombes israéliennes et ceux des morts qui sont morts sous les roquettes palestiniennes mal lancées, dont on sait qu'une sur quatre ou sur cinq retombe en territoire palestinien. Il est faux parce qu'il n'y a personne pour les vérifier. Donc le chiffre est faux. Voilà un exemple de...
Mais il y a un chiffre alternatif ?
Il y a un chiffre alternatif, oui. Il y a les chiffres que donne l'Israélien, qui est beaucoup plus bas, mais qui surtout... Ce que disent les Israéliens disent deux choses, moi qui me semble assez convaincante. Trois choses. La première, c'est qu'ils c'est totalement convaincant, ils ne visent jamais, en aucun cas, d'aucune manière, les civils. Deux, ils font tout ce qu'il est humainement possible dans une guerre pour éviter d'atteindre les civils. Et je crois en effet que dans une guerre de cette sorte, une guerre des tunnels, une guerre où les Israéliens sont au-dessus, où les Hamas sont en dessous et où il y a au milieu les populations civiles, je crois que il est difficile. Dans aucune guerre de cette sorte, on a pris autant de précautions pour éviter les morts civiles.
En même temps, il y a des enfants, évidemment, qui sont des enfants, que ces images sont abominables. N'y aurait-il qu'un enfant qui meurt sur la bande de Gaza, un enfant israélien, un enfant de Gaza.
D'ailleurs, cette querelle des chiffres, elle a quelque chose de macabre, elle a quelque chose de terrible, parce que ce n'est pas la question du chiffre. Mais le mensonge, c'est par exemple de dire que les Israéliens font un génocide. Le mensonge, c'est de dire qu'ils visent de manière indiscriminée les combattants et les non-combattants.
Il y a des couloirs humanitaires qui sont mis en place chaque jour. Ou qu'ils l'étaient, en tout cas.
Qu'ils l'étaient, qu'ils le sont encore pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, par
tous les jours.
Ça, Aladin, je l'ai vu, ça.
Donc, vous, votre thèse, si j'ose dire, ou votre analyse, c'est de dire la population gazaoui est l'otage, entre guillemets, du Hamas, et que c'est le Hamas qu'il faut détruire. Les Gazaouis sont les otages. Ils sont prisonniers du Hamas.
Ils sont les otages du Hamas.
Prisonniers, d'ailleurs, est plus juste.
Depuis très longtemps, oui, prisonniers, otages.
Mais ça fait 20 ans qu'ils sont évidemment élevés au lait du Hamas.
Oui, et bien sûr, depuis, et même un peu plus d'ailleurs, et même avant le Hamas. Par exemple, la question de l'aide humanitaire. Voilà un autre mensonge. Tout le monde répète, de manière pavlovienne, que les Israéliens empêchent l'aide humanitaire d'arriver. On somme les Israéliens de laisser passer l'aide humanitaire. Ça aussi, c'est une infox. Attendez, les camions passent. En revanche, ils ne sont pas distribués.
J'entends. J'essaye d'aller, non pas vite, mais tout le monde n'est pas sur votre position. Par exemple, Jacques Attali n'a pas de mots assez durs sur Netanyahou. Il n'a pas de mots assez durs. Il pense qu'il doit comparaître devant un tribunal international une fois que tout ça sera terminé. Il pense que Netanyahou est le pire qui est arrivé à l'État d'Israël, le pire dirigeant qui est arrivé. C'est une voix importante, Jacques Attali, dans la communauté juive. De la même manière, j'ai cité tout à l'heure Anne Sinclair, qui est sans doute avec qui vous avez combattu régulièrement, j'imagine, des causes ensemble, qui n'est pas sur votre ligne. Et j'ai même le sentiment aujourd'hui que parmi les intellectuels français, vous pouvez être isolé sur ce point-là.
Non. Écoutez, moi je pense que le pire qui est arrivé à Israël, c'est le 7 octobre. Voilà. Je pense que Benjamin Netanyahou, il mène cette guerre pas seul, avec d'autres. Il y a un cabinet de guerre. Il l'amène en particulier.
Oui, mais ce qu'il a fait avant est remis en cause.
Mais ce qu'il a fait avant, bien sûr, c'est remis en cause. Pourquoi pas, mais c'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël.
Bah, sinon, que ça peut avoir été la cause, une des causes, en tout cas, de cela. Certains le disent.
Eh bien, je ne le crois pas. Je crois que ce dont nous parlions au début, cette barbarie, cette sauvagerie, ces crimes franchement inédits, ils n'ont pas de cause. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de contexte. Et tous ces discours-là qui nous disent oui, c'est horrible, mais voilà ce qu'on fait.
Le mai, l'autre jour, que vous avez, l'échange que vous avez eu avec Natacha Polony, le mai, au moment où elle s'est parlé.
Et d'autres, et de Gutiérrez, d'un tas de chefs d'État, et des gens de la France insoumise. Le oui, mais ce mai.
Alors, la France insoumise, ça peut se comprendre pour des raisons purement électoralistes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le débat qui peut exister à l'intérieur même des intellectuels français qui ne sont pas forcément de la France insoumise. Bon, Elisabeth Lévy.
Alors d'abord, moi je publie bientôt une enquête sur cette question où on a de la famine qu'on a accusé Israël d'organiser quand même. Hein, c'est pas rien, c'est pas. Donc, et il est bien entendu que ça, c'est un mensonge éhonté. Aucun militaire israélien n'a jamais reçu un tel ordre. En revanche, il n'y a plus de pouvoir à Gaza. Voilà. C'est ça la question. Mais moi, je voudrais vous faire deux remarques. Dont une est assez douloureuse, parce que je crois, comme vous, si vous voulez, que c'est une guerre de défense, qu'Israël n'a pas vraiment le choix. Il n'empêche que je constate autour de moi, chez beaucoup de juifs, français, israéliens, qu'il n'y a plus d'empathie pour les victimes. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire, moi j'ai de l'empathie, et ça ne veut pas dire que je condamne cette guerre, si vous voulez. Mais, et ça, ça me frappe, vous connaissez la phrase de Golda Meir, c'est-à-dire sur ils nous obligent à tuer leurs enfants, c'est ça sur lequel on l'en veut le plus. Et je demande finalement ce que ça nous a fait, ce que ça a fait aux Juifs cette affaire. Est-ce que ça les a finalement, est-ce que ça les a endurcis? Voilà. Et la deuxième, je voudrais vous embêter sur le fait que depuis 40 ans vous nous dites que le danger est à l'extrême droite et qu'on voit que l'antisémitisme aujourd'hui n'est pas à l'extrême droite. Mais non. La première.
D'abord sur la deuxième, vous savez, ça fait 40 ans que je dis que l'antisémitisme est en train de ressurgir à l'extrême gauche. Ah ben si, écoutez, vous lisez-moi, ça fait 40 ans que je dis qu'il n'y a pas d'autre manière, ou en tout cas pas de manière aussi efficace d'être antisémite que d'être antisioniste. Ça fait 45 ans que je l'écris sur tous les tons, et que cet antisionisme, c'est le socialisme des imbéciles de Jules Guesd qui est en train de revenir. Sur votre première question, est-ce que ça nous a endurcis? Qui est nous? Les Israéliens? Oui.
On parlait aussi des Juifs en France.
Bah, les Juifs. Voilà. Endurcis, ça veut dire quoi? Pas d'empathie pour les victimes? Je n'ai pas ce sentiment. Moi, je vois au contraire autour de moi des juifs que cette histoire torture, bouleverse, tourmente, je ne connais pas un juif qui voit ou qui pense ou qui conçoive les victimes palestiniennes sans en avoir les tripes tordues. Je n'en connais pas un. Et parce que j'entends en effet dire la vengeance, la tentation de rompre avec le monde des hommes doux qui s'empareraient des juifs. Enfin, nous avons été trop doux, nous avons été trop démocrates, il est temps de devenir des hommes durs. Je crois que c'est faux. Ça n'est pas en tout cas le judaïsme.
Le colonialisme
que je connais.
Qui est un chapitre évidemment que vous abordez. La deuxième question qui vient, c'est celle du colonialisme. Écrivez-vous, pas les colonies de Cisjordanie, pas les établissements qu'ont créés depuis 1976 les gouvernements successifs d'Israël dans la partie de cette terre destinée. Non, Israël même qualifié de fait colonial. Israël tout entier présenté comme une colonie occidentale. Cela aussi, pour Claude Lanzmann, était un motif de grande colère, etc. Et ce qui est intéressant, et ça rejoint un peu ce que disait Elisabeth, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont parfaitement incultes sur cette situation. Et notamment des jeunes gens qui ont aujourd'hui 20 ans. D'ailleurs, c'est une faillite terrible de l'école républicaine de ce point de vue-là. Et qui voient ça de loin et qui considère, évidemment à tort, qu'Israël colonise depuis 1948 une terre qui n'est pas à elle.
C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour donner à, pour essayer de convaincre ces jeunes gens et pour et quant à ceux qui sont déjà convaincus, pour leur donner des armes, des munitions. Dire qu'Israël est un fait colonial, c'est comme ça qu'on dit, c'est tellement bête et tellement faux, et tellement le contraire. Israël, je le démontre, je crois rigoureusement, c'est le fruit d'une guerre de décolonisation réussie. Voilà, c'est comme ça. C'est comme Israël, état d'apartheid, c'est bête, c'est faux. Et là aussi, je déconstruis ce mythe qui est dans la tête des gens. C'est le contraire d'un apartheid. C'est un pays dont 20% de la population, un peu plus même, est arabe, druze, bédouine, et a les mêmes droits civiques rigoureusement que la population juive. Cette histoire d'apartheid est une histoire absurde. Donc, voilà, on est face à un tel océan d'approximations, de contre-vérités qui se solidifie dans les esprits que j'ai... Oui.
Mais alors, est-ce qu'il y a une responsabilité, selon vous, des médias, pourquoi pas français? Et est-ce que vous trouvez également qu'il y a une position médiatique? Et ça, c'est aussi intéressant. Vous lisez sans doute Libération, auquel vous étiez proche il y a de nombreuses années, et puis vous écoutez France Inter, et puis vous écoutez l'AFP. Donc il y a également cela qui pèse dans ce sujet et qui forcément est motif d'influence.
Il y a les médias, il y a les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, c'est autre chose.
Mais pas autre chose. Les médias,
les médias. Libération, c'est pas rien. France Inter, c'est pas rien. L'AFP, c'est pas rien. Le Monde, ce n'est pas rien.
Libération a fait cette une choquante il y a quelques semaines sur les 30 000 morts qui ne savaient rien. Et puis,
Monsieur Caron, d'ailleurs, s'en est servi de cette une lorsque nous avons été auditionnés. Il l'a soumise devant les yeux de Monsieur Nedjar.
Et en même temps, il y a trois jours, ils m'ont donné la parole pour dire ce que je suis en train de vous dire là. Je crois que c'était avant-hier, samedi, de manière très, très, très loyale. Donc je crois que dans les médias, il y a une bataille d'idées qui se joue. La bataille de la vérité. Israël, aujourd'hui, en France, c'est une bataille pour la vérité, d'abord. Les Israéliens, eux, ils mènent la bataille pour les otages, ils mènent la bataille pour la destruction du Hamas. Nous, Français, il nous revient de mener la bataille pour la vérité, de ne pas laisser dire des bêtises, des mensonges, de ne pas laisser diffamer cette grande démocratie qu'est Israël. Voilà, c'est ça. Et évidemment que les médias sont l'un des théâtres de cette bataille.
Et alors le paradoxe, effectivement, et Elisabeth le disait tout à l'heure également, c'est que vos alliés ne sont pas forcément les alliés d'aujourd'hui, des Juifs, ne seront pas forcément les alliés d'hier. Et vous dites d'ailleurs, et c'est très intéressant, parce que moi j'ai ce sentiment, j'ai évidemment pas de statistiques à donner, mais je connais beaucoup de Juifs français qui aujourd'hui se sentent plus proches du Rassemblement National que des autres partis politiques. Et puis il y a enfin ces amis nouveaux, écrivez-vous, à l'extrême droite des échiquiers politiques occidentaux qui sont nombreux à tendre la main. Mais que penser de cela? Et doit-on compter sur eux? Je pose la question loyalement. Et je n'oublie pas que les hommes changent, que les partis se transforment et que des racistes guéris, des antisémites repentis ou des fils et filles de fascistes rompant avec l'héritage des pères, cela s'est vu. Bon. Oui, compris de qui vous parlez.
Mais je continue. Mais je continue la suite de la page.
Oui,
à une condition.
Oui.
Cela s'est vu à une condition, c'est-à-dire à condition que l'on travaille, que l'on réfléchisse, que l'on fasse retour sur son passé.
Ça a été fait. Je suis pas l'avocat de Madame Le Pen, mais elle a viré son père sur cette question.
L'antisémitisme, c'est pas une décision. Rompre avec l'antisémitisme, ça se décide pas dans un bureau politique. Ça se décide en conscience, au terme d'un long, difficile et douloureux travail sur soi. Il y a des grands écrivains qui ont fait ça. Georges Bernanos a été un antisémite, et puis à la fois foudroyé par l'évidence de l'événement, à l'époque, en l'occurrence, c'était le nazisme, et puis mu par sa grande intelligence prophétique, il est revenu sur tout ça, il a travaillé sur tout ça, et il s'est libéré de cette vieille peau antisémite.
D'accord, mais depuis le 7 octobre, convenez que le Rassemblement national est sans doute moins antisémite ou pas antisémite que d'autres partis en France.
Ils étaient à la marche.
Peut-être. Peut-être. Et encore une fois, je suis loyal, je ne fais pas de procès.
Nathan Devers.
Je dis juste.
Mais vous avez qualifié Jordan Bardella il n'y a pas si longtemps que ça d'antisémite. D'ailleurs, il a annoncé porter plainte contre vous pour
diffamation. Oui, ce que j'ai dit exactement sur Jordan Bardella, c'est que, fort de ce que je viens de vous dire là, normalement, quand on a vraiment réfléchi sur le passé de sa formation politique, lorsqu'on a vraiment pensé à tout ça et qu'un journaliste vous dit est-ce que Jean-Marie Le Pen, quand il faisait des blagues sur du rafraîchissement, était antisémite ou non, on sait quoi répondre. On répond oui. On ne dit pas je ne sais pas. On ne s'embarrasse pas dans des vagues bredouilles.
Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un d'antisémite.
Je vais donner la parole à Nathan Devers. Je vais donner la parole à Nathan Devers, que vous connaissez d'ailleurs.
Oui.
Qui est un jeune homme qui vient nous voir de temps en temps. Je précise qu'un, sans doute quelqu'un qui était présent à cette grande conférence, je ne sais pas quand elle a eu lieu, qui me dit Bernard-Henri Lévy a été exceptionnel à la grande conférence dont personne dans les médias n'a parlé. C'est quoi cette grande conférence?
C'est une conférence qui a eu lieu à la salle Pleyel, la veille de la sortie de ce livre.
Et personne n'en a parlé.
Mardi dernier, il y avait quelqu'un de chez vous d'ailleurs, il y avait de cette chaîne, il y avait Laurence Ferrari, il y avait Manuel Valls, Jean-Michel Blanquer. Et j'ai conclu cette grande conférence, en effet, par une sorte d'exposé sur la solitude d'Israël, sur cette solitude douloureuse qui, moi, m'empêche de dormir.
Nathan Devers.
Oui, il y a un côté, et qui fait juste écho à la discussion qu'on vient d'avoir dans votre livre, qui a un côté un peu gaulien. Ça veut dire que quand vous défendez Israël, ce que vous défendez en Israël, c'est une certaine idée que vous vous faites depuis toujours. Je le dis pour les téléspectateurs, vous connaissez Israël depuis 67, depuis Ben Gurion, que vous avez personnellement connu. Et ce que vous défendez, c'est cette idée-là. Vous comparez Israël dans votre livre à un point, c'est-à-dire pas tellement une puissance géopolitique, pas tellement une question stratégique, mais cette idée. Et notamment contre ses faux amis, à l'époque même de Donald Trump, vous alertiez sur le côté baiser de la mort, d'amitié qui pouvait être dangereuse. Alors moi, j'avais une remarque et une question. La remarque, c'est que ce qui est fort dans ce livre, c'est que vous faites partie des gens qui, quand il y a un événement, c'était le cas avec le coronavirus, c'est le cas avec le 7 octobre, vous l'analysez sans plaquer des concepts qui sont déjà préécrits, sans y voir la confirmation de vos théories précédentes, mais avec en quelque sorte l'éthique intellectuelle de faire une sorte de veau de pauvreté, de tout abandonner au profit de la description pure de l'événement et de voir ensuite ce qui sort. Et c'est ce que vous faites dans ce livre, en revenant notamment sur la généalogie d'Israël, sur ce récit de l'État colonial. Ensuite, moi, la question que j'avais, c'est que j'ai l'impression que le 7 octobre, du point de vue de la société israélienne, ça a fait, ça a fragilisé toutes les certitudes de tout le monde. Ça veut dire que les gens qui étaient un peu les gauchistes, qui croyaient en la paix de manière un peu naïve, globalement, le 8 octobre au matin, ils se réveillent, ils se disent, bon, quelle paix, avec qui, comment, quand? Et les gens qui étaient les soutiens les plus fervents de Netanyahou, voire plus à droite que lui, se sont réveillés le 8 octobre en disant on a quand même été sans doute bien dupés dans cette illusion qu'on allait régler la question palestinienne de manière purement sécuritaire. Vous pensez que d'ici un an, deux ans, cinq ans, dix ans, quelle trace ou quelle bifurcation le 7 octobre va marquer dans cette société ?
Je crois que vous avez raison sur cet ébranlement. Tous les Israéliens que j'ai rencontrés dans les jours qui ont suivi le 7 octobre disaient tous il y aura un avant, un après. Disaient tous nous avons été changés au plus profond de nous-mêmes. Disaient tous nous avons vécu une expérience de mort imminente et quand on vit l'expérience de la mort imminente, on n'en sort pas, on n'en revient pas pareil. Donc, bien sûr que cela est vrai. Après, il y a une chose qui n'a pas changé. Je reviens à ce que vous disiez au début sur cette Israël idée. C'est que, idée ou pas, Israël reste dans les faits, réellement, concrètement, une très grande démocratie. Je connais peu de démocraties qui seraient sorties intactes d'une épreuve comme celle qu'Israël est en train de traverser. Ça me paraît, vous savez, on dit toujours la seule démocratie du Proche-Orient. C'est plus que ça. C'est certainement l'une des très grandes démocraties du monde. Une démocratie qui affronte ça. Plus cette mobilisation générale, plus cette menace existentielle, cette menace aux frontières, le Hezbollah.
J'entends Bernard-Henri Lévy, mais j'ai envie de vous poser des questions précises sur l'avenir, notamment, parce que maintenant.
J'aimerais, pour sortir de cette solitude d'Israël, est-ce que vous ne croyez pas, comme l'ont pensé Yitzhak Rabin, comme l'ont pensé Shimon Peres et d'autres, que la solution, c'est une solution à deux États. Est-ce que c'est aussi votre...
Et la position française. Et lorsqu'on entend Madame
Rima Hassan dire binationale.
Voilà. Et on voit ce qui s'est passé.
Disparition d'Israël.
Oui. Et puis on voit comment ont été traités dans ces cas-là les chrétiens. Lorsque... Oui.
Mais ça, moi, c'est ma position personnelle.
Mais qu'est-ce qu'on fait
depuis
la
nuit?
Parce que là, la guerre, elle va pas s'arrêter. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus il y a risque de qu'Israël apparaisse effectivement comme, non pas l'agresseur, mais en tout cas comme le responsable de tous ces morts, de cette famine, de ce qui peut exister avec effectivement la manipulation des informations dont vous avez parlé tout à l'heure.
Je ne suis pas si pessimiste que ça. D'abord, je crois que je ne suis pas sûr que la guerre va durer si longtemps. Israël a détruit les trois quarts des bataillons du Hamas, ça on en était plus certain. Un grand nombre de ses commandants, de ses chefs barbares. Ceux qui restent, ils sont à Rafah. Ils savent à peu près où ils sont. Et il y a aujourd'hui un plan, Israël, un plan qui est assez simple. Évacuation des civils de Rafah et donner l'assaut à ces chefs djihadistes retranchés, comme nous l'avons fait, nous, les Européens et les Américains, à Mossoul, il y a 10 ans.
Bon, et ensuite.
Donc, alors ensuite, une fois que la guerre sera gagnée, une fois que l'hypothèque du Hamas sera levée, bien sûr qu'il faudra une solution politique. Bien sûr que cette solution politique, ça doit être cette formule des deux États. Bien sûr que lorsque les Palestiniens seront libérés de cette hypothèque,
ils n'en ont jamais voulu.
Ils n'en ont jamais voulu parce qu'ils ont été gouvernés par des mauvais maîtres. Oui, mais... Aujourd'hui, le Hamas, hier, Yasser.
Mais vous pensez, sérieusement, vous pensez que demain, une fois que le Hamas sera éradiqué, les Palestiniens vont accepter l'idée d'une position ou d'une possibilité de deux États avec un interlocuteur?
C'est la seule possibilité. Et l'inverse de ça, c'est même pas la guerre, c'est l'enfer. Donc, je pense que lorsque ce qui est certain, c'est que un État palestinien avec le Hamas, c'est impossible.
Bien. Il y a eu un coup de téléphone hier entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'est opposé à l'offensive sur Rafah et a même mis en garde le Premier ministre israélien contre des crimes de guerre. Donc on voit que ça monte d'un ton entre Tel Aviv et Paris.
Un mot sur Jean-Luc Mélenchon, évidemment, parce que LFI est très présent, si j'ose dire, dans ce débat depuis le 7 octobre. Son chef Jean-Luc Mélenchon, écrivez-vous, fut un peu plus prudent, mais il ne fut pas moins pervers, s'abstenant le 7 octobre de condamner le Hamas, refusant de parler de terrorisme pour caractériser les morts et les kidnappés, et réservant ses flèches 3 jours plus tard dans un accès de fureur lunaire à ses ennemis jurés du CRIF. Et puis, vous parlez de lui plus loin, vous dites le même récidiva dans les semaines suivantes, développa sans fièvre et le fit avec une application étrange qui me rappela l'époque où, jeune socialiste, il se mourait d'être mal aimé par François Mitterrand, méprisé par des camarades mieux gradés que lui dans les ordres marxistes qui tenaient alors le haut du pavé et incapable, quoi qu'il fît, d'atteindre à la froideur spéculative qui lui semblait la fin du chic politique. On le vit donc, ce radical de pacotille, ce vieux social-démocrate qui, pour parodier le mot djihad, s'était mis révolutionnaire, comme on se met grand coiffeur, ce Robespierre grimé, etc., etc. Bon. C'est un calcul de Mélenchon, c'est un calcul de la France insoumise, d'aller vers des territoires de la République où sans doute, la haine d'Israël est forte, et en tout cas l'empathie pour Gaza est présente. On a vu cette scène hallucinante l'autre jour, d'un jeune homme qui interpelle le président de la République et qui lui dit « Monsieur le Président, que faites-vous à Gaza ? C'est ça qui peut faire exploser les quartiers ». Ce jeune homme disait cela. C'est ça qui peut faire exploser à Marseille. Donc lui-même reconnaissait que les quartiers, ce qu'on devine, ce qu'on sait sans tout à fait le dire, les quartiers sont effectivement pro-Gaza plus que pro-israélien.
Oui. Mais je ne suis même pas certain, c'est ma thèse dans le livre, je ne suis même pas certain que de la part de Mélenchon et de ses copains, que ça soit un calcul. Je ne suis pas sûr. Un calcul machiavélien, on dit toujours. Hein, un calcul de Machiavel politique cherchant à draguer les voies des quartiers. C'est faire insulte à Machiavel, qui était quand même un grand penseur, et c'est être peut-être trop indulgent avec les insoumis. Je crois qu'il y a quelque chose de plus profond qui s'est éveillé en eux et qui n'est pas de l'ordre du calcul électoraliste. Et ça, vous savez, ça s'entend. Quand il y a eu des mots de la France insoumise, il y a eu des attitudes, ce député à Tunis, goguenard, ouais. Moqueur,
Guiraud,
qui blaguait sur les femmes juives violées, tout ça, ça dit autre chose qu'un simple calcul électoraliste froid.
Et ça dit quoi, selon vous ?
Eh bien, de la haine, du mépris.
C'est ce que vous avez dit, il se réjouissait. J'ai entendu que vous disiez ça. Oui, certains se sont réjouis. Ils pouvaient se réjouir.
Bah, écoutez, dans les jours qui ont suivi les premières manifestations en Europe, à Londres et à Paris, il y avait, oui, dans les rues, une espèce de fièvre.
Sauf que Londres n'est pas Paris. Et Emmanuel Macron a raison de le dire, ça. Il souligne que, d'une certaine manière, Paris, la France, entre guillemets, les quartiers se sont bien tenus par rapport à Londres.
Sur Londres, ce n'est pas les quartiers. Londres, c'est le centre de Londres qui, aujourd'hui, est une zone de no-go pour les Juifs le samedi. Oui. C'est pire que les quartiers. Donc, en effet, nous n'en sommes pas là. Les États-Unis sont également gagnés par cette fièvre antisémite.
Les facs, les grandes écoles françaises.
Et non, parce qu'on a Bernard-Henri Lévy, pardon.
Élisabeth Lévy.
Sur notre vieux désaccord, et vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous, et votre livre, d'ailleurs, vraiment m'a touché. Il n'empêche que vous avez un peu raté la montée de l'antisémitisme arabo-musulman, parce que je reprends, si, je suis désolée, vous étiez obsédé par l'extrême droite et pendant des années on s'est quand même fait traiter d'islamophobe à chaque fois qu'on essayait d'en parler et je ne me rappelle pas que vous étiez à nos côtés pour défendre cette vérité.
Je ne sais pas si j'étais à vos côtés mais je crois avoir été l'un des premiers en France à avoir attiré l'attention sur le cas, par exemple, du grand moufti de Jérusalem à Al-Husseini. J'étais l'un des premiers.
Je vous parle d'aujourd'hui, moi. Je ne vous parle pas du grand moufti.
Mais moi, je vous parle de la généalogie. Je vous parle d'histoire. Le fait qu'il y ait, dans l'islamo-gauchisme, un fond archaïque nazi, ça, j'ai été l'un des premiers à en parler.
Soumaïa Labidi nous rappelle les titres. Je voulais parler, mais je ne sais pas si on aura le temps, de l'échange que vous avez eu avec Natacha Polony. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu et ce que vous en pensez, mais c'est deux tendances qui pouvaient effectivement sur le plateau de Léa Salamé s'affronter. Mais je ne sais pas combien de temps dure l'extrait et il nous reste très peu de temps. Soumaïa Labidi.
Des opérations PlaceNet XXL actuellement en cours dans plusieurs villes, dont à Lille, l'île où se rendra Gérald Darmanin dans la matinée, avant un point presse du ministre à Roubaix pour présenter un premier bilan de ces nouvelles opérations antidrogue. Le niveau le plus élevé, le plan Vigipirate monte à urgence attentat, un choix annoncé par Gabriel Attal à l'issue d'un conseil de défense hier soir à l'Elysée sur l'attentat de Moscou et ses conséquences. Et puis il serait en tête du premier tour. L'opposant Bassirou Diomaye Faye semble avoir pris l'avantage de la présidentielle au Sénégal. Mais le camp du pouvoir a assuré qu'il y aurait un second tour pour lequel aucune date n'est fixée pour le moment.
Merci beaucoup, Soumaïa. Il y a un climat, effectivement, entre la presse, parfois, et même les intervenants. Douglas Murray, vous avez vu sans doute ce qui circule sur les réseaux sociaux. Je demande l'autorisation de le passer. Pour le moment, je ne peux pas le passer parce que ce n'est pas libre de droit. Mais c'est très intéressant. C'est un journaliste qui parle...
Un intellectuel britannique.
C'est mieux qu'un journaliste.
Oui. C'est mieux qu'un journaliste. Vous pensez que c'est possible ?
Vous pensez que c'est mieux qu'un journaliste ?
Oui. Non, ça, à mon avis, ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas se rencontrer tous les jours.
Là, sur ce dossier-là,
oui. Cet échange est sidérant.
Oui, c'est-à-dire que c'est à la fois un journaliste, c'est un historien et c'est un essayiste, un philosophe. Et c'est nourri de ces trois choses-là qu'en effet, il intervient sur le dossier. Et il faisait partie de ceux qui, dès les lendemains du 7 octobre, était également sur place. C'est un vieil ami, un vieux camarade. L'échange dont vous parlez...
Je vais essayer de le passer pour tout vous dire demain et voir s'il n'est pas, si on peut le récupérer.
Qu'est-ce qu'il dit ? Parce que ceux qui nous écoutent...
C'est une leçon d'histoire.
Une leçon de choses. Il démonte calmement...
Oui.
Les éléments de langage du Hamas tels qu'ils sont repris parfois par des journalistes français aussi.
Oui, non, mais là en l'occurrence,
c'est bien sûr. Oui, mais j'ai voulu parler des médias et vous avez été assez prudent tout à l'heure parce que ça vous ennuie d'attaquer peut-être les quoi. Ça vous ennuie.
Ça m'ennuie de dire non, ça m'ennuie de dire les médias. Il n'y a pas les médias et chaque média est lui-même.
Enfin, il y a une pensée commune en France sur certains sujets.
Non, il y a, c'est pas une pensée commune. Il y a en effet un déferlement d'antisionisme. Il y a un déferlement d'antisionisme et d'injustice faite à Israël partout, dans la presse de gauche, comme parfois dans la presse de droite. Voilà, c'est ça la vérité. Il y a un déferlement. Les éléments de langage du Hamas sont considérés comme monnaie courante par une grande partie des commentateurs.
La dernière phrase que je voulais citer, parce que nous sommes touchés évidemment par nos compatriotes juifs que nous rencontrons et que nous aimons. Et c'est la France des droits de l'homme et de Voltaire redevenait un pays où l'on pouvait mourir d'être juif. Voilà. Cette phrase-là, qui est une des phrases les plus importantes du livre, sans doute, en tout cas pour moi, la France des droits de l'homme et de Voltaire redevient un pays où l'on pouvait mourir d'être juif. Et il y a beaucoup de juifs qui réfléchissent à leur alia, qui français, que je croise, qui disent voilà. Je serai tranquille en Israël.
Ça a explosé.
Et beaucoup de Juifs qui ne font pas leur alia, qui restent en France, mais qui mettent une casquette sur leur kippa, qui envoient leurs enfants à l'école, la peur au ventre.
Et en même temps, et c'est ce que vous montrez dans votre livre, c'est que le 7 octobre, ça marque l'alignement d'Israël sur la diaspora, dites-vous. Oui. C'est-à-dire qu'Israël change, ne peut plus être un objet de perception comme un lieu, une terre refuge absolument sécuritaire où les Juifs seraient préservés de tout danger. Et ça, c'est une sorte de révolution copernicienne quand même, dans la perception.
Absolument. L'idée de l'État refuge pour le plus vieux peuple persécuté du monde, c'est-à-dire le peuple juif, cette idée-là, est une idée qui a été ébréchée, entamée par le 7 octobre.
Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Votre capacité d'indignation est intacte et votre capacité d'engagement et de combat est également intacte.
Ah oui.
Et à chaque fois que je vous croise, c'est toujours... nous terminons souvent cette émission de cette manière. Pourquoi tout ça ? Vous pourriez être tranquille à Saint-Germain-des-Prés en train d'écrire des bouquins et vous mêlez, vous entrez dans un combat où, c'est, en ce moment, on ne va pas rentrer dans les détails, mais
parce que c'est
très attaqué.
Parce que c'était, oui, mais c'est existentiel, la solitude d'Israël, le sort d'Israël, pour moi, est existentiel. Et vraiment, je le vis ainsi. Depuis le 7 octobre, j'ai reçu cet événement, j'ai reçu ces images, j'ai reçu ce vacarme chez nous en France, vraiment comme quelque chose qui m'a blessé profondément. Voilà.
On est en retard et je vous remercie grandement. Et si vous me permettez un commentaire personnel, vous êtes assez éloigné de l'image que certains ont de vous et de la caricature qui est parfois dessinée de vous.
Bah, ça nous arrive à tous.
Suivez mon regard.
Très bonne conclusion.
Mais c'est pour ça que vous avez fait normal. C'est parce que vous êtes très, très rapide et très intelligent. Alors là, il y a quand même deux normaliens table.
Après le niveau.
Nous, on a des petites licences de droit. Ouais, bon, voilà, l'histoire. Laurent Prat était à la réalisation avec nous et je le remercie. Hugo Trindade était à la vision. Merci à Anatole de Beaumont qui était au son. Merci à Marine Lançon. On est un poil en retard. Félix Perrolaz, bien évidemment. Et Jean-Marc Morandini dans une seconde. Bonne journée à tous. Rendez-vous ce soir.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.